Depuis hier, donc, c'est parti, le débat parlementaire sur le projet de loi qui autorise le gouvernement à modifier par ordonnance le code du travail est lancé. Hier, à l'ouverture des débats, la ministre du Travail a assuré vouloir donner plus de liberté, plus de protection aux entreprises et aux salariés. Muriel Pénicaud qui a fustigé la complexité du code du travail. Nous croyons dans le dialogue social au plus près du terrain, dans les branches et dans les entreprises. Voilà ce qu'a déclaré donc la ministre du Travail. La complexité du code du travail, ça tombe bien, car au printemps, un collectif d'universitaires a réécrit un code du travail qui divise par 4 le nombre de textes qui existent actuellement. Ces chercheurs proposent une nouvelle mouture du petit livre rouge qui régit les rapports sociaux, nouvelle mouture qui se veut plus adaptée à notre temps. Nous verrons en quoi consiste cette nouvelle mouture. Alors, question ce soir au téléphone sonne sur France Inter. Est-il vraiment nécessaire de réformer le code du travail pour créer de l'emploi? Et si oui, les propositions d'Emmanuel Macron et du gouvernement sont-elles les bonnes recettes? Intervenez jusqu'à 20h au 01 45 24 7000.
Stéphane Leneuf, le téléphone sonne.
Et au standard, on a Robert qui nous appelle de Pau. Bonsoir Robert.
Oui, bonsoir monsieur, bonsoir à vos invités. Oui, est-il légitime de réformer le code du travail? Oui, probablement. Puisque tout évolue, je ne vois pas pourquoi on ne le réformerait pas, peut-être. Mais les salariés du privé sont-ils les responsables à ce point-là des déboires économiques? Pourquoi, dans la continuité, comme deuxième grande mesure, par exemple, on ne réformerait pas le code de la fonction publique, le statut de la fonction publique, parce que je crois que nous sommes tous co-responsables des déboires économiques, si déboires économiques il y a en France. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. On nous parle de 8 milliards d'économies, mais combien en avantages et privilèges? Je ne veux pas entendre dire qu'il ne faut pas monter le public contre le privé, parce que ça, c'est déjà une cause acquise depuis très longtemps, depuis 1993, où il y a eu la réforme des retraites, mais seulement dans le privé. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Combien de milliards d'économies auraient pu être faites si, par exemple, on avait mis les retraites sur le même niveau entre public et privé? Donc vous voyez, ça fait et ça depuis 93, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Donc on a gaspillé combien de milliards? Gaspillé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin on aurait pu faire quelques économies quand même. Aujourd'hui, je pense que peut-être il y a des gens qui se font toujours muter dans les îles, des fonctionnaires qui se font toujours muter dans les îles quelques mois avant de partir en retraite pour booster leur retraite. Je peux comprendre ça, mais n'y a-t-il pas là aussi des économies à faire? Voilà, je crois qu'il faut faire des économies partout où on peut en faire et aussi dans la fonction publique.
Merci Robert, vous nous appelez de Pau autour de la table. Donc deux invités ce soir pour vous répondre. Gilles Berset, économiste, professeur associé à l'université d'Aix-Marseille. Bonsoir Gilles Berset.
Bonsoir.
Et Emmanuel Dequesse, professeur de droit du travail à l'université Paris-Nanterre. Gilles Berset, la réponse à Robert.
Écoutez, la réponse à Robert, c'est que évidemment il ne faut pas opposer le public et le privé. La réforme du secteur public est indispensable à mes yeux, je dirais à nos yeux. Philippe Aguillon, Élie Cohen et moi avons publié un livre qui s'appelle « Changer de modèle » il y a 3 ans, dans lequel on détaille le contenu que pourrait prendre une telle réforme. On publie aujourd'hui une tribune dans Le Monde dans lequel ce que nous disons, c'est que le rabotage des rémunérations dans la fonction publique, le gel du point d'indice, n'est pas la solution clé de la maîtrise des dépenses publiques. La solution clé, c'est évidemment un peu moins d'agents dans la fonction publique. Dans la fonction publique, le problème, c'est pas que les fonctionnaires sont trop payés, c'est qu'ils sont trop nombreux. Et nous donnons des pistes, d'ailleurs, pour réduire les effectifs de la fonction publique, entre autres la suppression d'un échelon, d'une feuille, si on peut dire, d'une millefeuille territoriale, et ça ferait beaucoup, beaucoup d'économies. Mais là, on est loin de la réforme du droit du travail.
Hein. Emmanuel Dequesse, pour répondre à Robert.
Alors, comparer le public et le privé est une chose bien difficile. Vous savez, si on regarde notamment le niveau de rémunération dans le public est globalement à un niveau d'études égal, très sensiblement plus bas que celui qui existe dans le privé. Alors après, on peut avoir des modes de calcul de la retraite différents, mais on a aussi des revenus qui sont à un niveau d'études égal vraiment très très inférieur, et ce qui fait que toutes les comparaisons deviennent un petit peu complexes. Surtout, ce que je voudrais dire à notre auditeur, et qui est une chose à mon avis très importante, c'est de se méfier des discours les uns contre les autres. On a détruit les droits, par exemple, des travailleurs stables au nom des travailleurs précaires, après on veut détruire ceux du public au nom de ceux du privé, après on détruit ceux du privé au nom encore d'un troisième, c'est aussi les étrangers contre les Français, c'est les uns contre les autres, et à la fin, on n'a qu'un processus très très long et très très complexe, mais toujours de destruction. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi essayer de penser à la préservation et à la protection de toutes les catégories sociales en France.
Alors, revenons à notre sujet, la réforme du Code du travail. Moi, j'ai envie de vous poser une seule question, Claire. Est-ce que cette réforme va permettre effectivement de créer de l'emploi aujourd'hui ? Gilbert Sept.
Oui, cette réforme va permettre de créer des emplois, mais cette réforme ne sera pas la réponse absolue au problème de chômage massif que nous connaissons en France. C'est un élément dans un ensemble de réformes.
Alors, un exemple concret, Gilbert Sept. Comment une réforme de droit du travail, du code du travail, peut créer de l'emploi ?
Peut créer de l'emploi par la réduction du coût du risque, de la prise de risque pour les chefs d'entreprise, en réduisant par exemple l'incertitude au moment des licenciements, en réduisant la prise de risque qui peut être associée au franchissement des seuils sociaux face à des perspectives de débouchés incertaines, avec l'effet de cliquer si on revient ensuite en dessous de ces seuils sociaux. Dans une infinité de domaines, en quelque sorte, non seulement le code du travail, c'est pas simplement le code du travail, mais l'exercice même du droit du travail, parce que la façon dont les contentieux sont réglés en France aboutissent à de l'incertitude pour les chefs d'entreprise, d'autre part, et beaucoup d'augmentation du coût du risque. Et ça, évidemment, c'est défavorable à l'emploi.
Emmanuel Decazé fait partie de ces universitaires qui ont écrit un nouveau code du travail. Alors, outre le fait que vous avez écrit un nouveau code 4 fois moins épais que le code actuel, est-ce qu'effectivement, vous avez des solutions sur la fluidité du marché du travail, sur une réforme qui crée de l'emploi, comme vient de le dire Gilbert Sept?
Alors la première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas mythifier le fait de faire des lois qui permettent de créer des emplois. Malheureusement, l'emploi est une chose et la loi en est une autre. Et c'est pas en modifiant forcément systématiquement les lois qu'on crée des emplois. D'ailleurs, on l'a vu, on n'a pas manqué de réformes. On a déjà des dizaines de réformes qui se sont accumulées, qui ont multiplié les textes dans le Code du travail et qui n'ont jamais particulièrement créé d'emplois. On se souvient du MEDEF qui plastronnait avec un petit pins avec 1 million d'emplois si on fait ci, si on fait ça. On a fait ci, on a fait ça, on n'a pas créé d'emplois. Là, c'est exactement les mêmes discours qui reviennent, on nous dit faites ci, faites ça, on le fait, et est-ce que ça créera de l'emploi? Non, ça créera pas d'emploi, en fait, c'est une vieille antienne, on détruit au nom de l'emploi, mais en fait on crée pas d'emploi. En revanche, est-ce qu'il serait utile de simplifier le droit du travail pour des raisons démocratiques, de compréhensibilité de la norme? Oui, évidemment, mais ce n'est pas la direction dans laquelle s'engage le gouvernement, puisque en l'occurrence, il n'y a pas de simplification qui est prévue, mais au contraire, un certain nombre de textes supplémentaires qui viennent s'accumuler. Si on voulait essayer d'inventer une réforme qui crée de l'emploi, à mon avis, la seule véritable direction d'avenir, mais il faut parler de moyen terme ou de long terme, dans une époque de robotisation, je pense qu'il n'y a pas de solution à la réduction du chômage si on ne pense pas à réduction du temps de travail. Ça, c'est pour moi très clair.
Au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Gérard, vous nous appelez de Saint-Gratien. Bonsoir, Gérard.
Oui, bonsoir. Le fondement de la réforme, l'emploi, mérite d'être pour le moins discuté. En effet, comment faire croire que la modification du droit du travail pourrait avoir le moindre effet sur le taux d'emploi, alors que toutes les études OCDE, OIT, Banque mondiale, INSEE, établissent qu'il n'y a aucun lien entre la protection de l'emploi et le chômage. Je suis très étonné, moi, d'entendre toujours le même discours, et quand on gratte un peu, quand on fait un peu de recherche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation directe entre les deux. La vraie question, effectivement, c'est d'avoir une réglementation suffisamment stable dans les entreprises, pour que ça change pas tout le temps, pour que les employeurs et les salariés sachent à quoi s'en tenir. Moi, je suis syndicaliste dans une grande maison, dans une boîte de 10 000 salariés. Faut pas la nommer France Télévisions, notre employeur est déjà en train d'attaquer nos droits syndicaux en fonction de la future loi qui risque d'être votée. Je trouve ça absolument ahurissant.
Gérard Gilbert, c'est de vous répondre.
Alors, deux choses. D'abord, monsieur, moi je suis économiste, mais vous semblez connaître beaucoup d'études que je ne connais pas moi-même, en ayant bien étudié cette question.
Je les connais personnellement.
Oui, tu en connais quelques-unes qui ont été démenties ensuite par d'autres. Là, je veux dire, les études qui aujourd'hui sont le plus considérés par les économistes parce que le plus consacré en étant publié dans les supports, les plus reconnus dans le monde entier, montrent, et je fais partie des gens qui ont publié telles études, montrent que les rigidités sur le marché du travail, les protections très fortes associées au licenciement, le coût procédural, en quelque sorte, réduit l'emploi dans les pays et n'est pas ressenti par les travailleurs concernés comme quelque chose de réellement protecteur, hein, quand on croise des résultats à différentes enquêtes. Donc il ne s'agit pas d'affaiblir les protections, il s'agit de les renforcer dans un pays où, de fait, beaucoup de gens ne sont pas au travail, beaucoup de gens sont chômeurs et ne sont pas protégés.
Emmanuel... Oui. Alors l'idée de détruire les Emmanuel protections Dockes. Pour renforcer la protection, on est encore dans le paradoxe habituel de l'effet pervers qu'on nous ressasse continuellement. En revanche, je voudrais dire à l'auditeur que je connais personnellement effectivement les études qui sont citées. Notamment, on a une étude qui a été faite par l'OIT sur plus de 110 pays et qui démontre que les destructions qui ont pu avoir lieu sur les protections élémentaires de l'emploi, assez logiquement, ont effectivement créé un petit peu, hein, pas beaucoup, mais ont créé un petit peu de chômage. D'ailleurs, c'est assez logique, vous réduisez les protections de l'emploi, vous créez un petit peu de chômage, il y a quelque chose d'assez banal. L'idée selon laquelle les règles de droit iraient toujours en sens inverse de ce qu'elles font, c'est-à-dire que les protections de l'emploi ne serviraient qu'à détruire l'emploi, ce genre de paradoxe-là affirmé comme doxa systématique, c'est un vieux discours, c'est le discours de l'effet pervers, le discours de l'effet pervers qui a soutenu toutes les doctrines réactionnaires depuis l'aube des temps. Déjà, quand on a interdit le travail des enfants, on nous avait dit, ah, vous interdisez le travail des enfants, ben les pauvres enfants vont mourir de faim parce qu'ils n'auront plus d'emploi et les pauvres enfants seront bien tristes. Ah, vous voulez faire l'ange et vous faites la bête. Bon, c'est un argument récurrent. En réalité, les protections protègent.
Gilbert Sept. Juste un point. Bon, d'abord, la comparaison avec la protection des enfants est quelque chose d'inqualifiable comme procédé de discussion. Bon, ça, c'est un premier point. Il fallait le dire.
Et
la démarche actuelle consiste en quoi? Elle consiste pas à réduire le code du travail. Elle consiste à dire, vous, les partenaires sociaux, vous avez la possibilité de construire des nouvelles normes qui se substitueront aux normes du Code du travail dans certaines limites qui sont celles des principes et puis d'autre part du droit multinational, du droit international, supranational. Mais en aucun cas, dans la démarche actuelle, il s'agit de dire telle ou telle disposition du Code du travail ne s'appliquera plus. Non, dans les entreprises et les branches où on ne sera pas capable d'aboutir par la négociation collective à des accords majoritaires, dans ces endroits-là, eh bien, le Code du travail continuera à s'appliquer. Non. Vous êtes un syndicaliste, monsieur.
Mais vous avez
Ça sera à vous que reviendra la responsabilité de construire des normes plus protectrices. Ça sera vous qui porterez ça, cette responsabilité.
Mais là, vous avez changé complètement
Manuel
d'objet.
Manuel Dockes, rapidement, et on ira au standard.
Vous avez changé d'objet complètement. Là, on parlait de la protection du droit du licenciement. La protection du droit du licenciement n'entre pas dans cette problématique de l'accord d'entreprise qui vient déroger ou qui vient réduire la loi. Ici, il s'agit simplement de détruire effectivement un certain nombre de protections légales. C'est ce qui est prévu, notamment en permettant la violation de l'obligation de donner une justification du licenciement à bas coût ou à coût fixe, donc à coût prévisible, donc de simplifier le licenciement sans justification. C'est de cela dont il s'agit. Et il ne s'agit pas de le permettre par convention collective, il s'agit de le permettre dans la loi.
Ce qui existe partout, hein, enfin, quasiment partout.
De licencier sans justification avec un coût prévisible et relativement abordable, c'est pas
dans
quelque chose qui existe partout.
Dans les pays nordiques et scandinaves, par exemple, qui sont très égalitaires.
Alors, prenons l'exemple, effectivement, des pays scandinaves. On est effectivement dans des négociations, effectivement, au niveau de l'entreprise. Je pense, par exemple, à des pays comme le Danemark, hein, qui allie aussi à la fois négociations, discussions entre salariés et chefs d'entreprise, et puis une flexibilité, une protection derrière. Emmanuel Dockes, est-ce que finalement, c'est pas la solution d'avoir un rapport entre salariés et chef d'entreprise?
Alors qu'il y ait un rapport entre salarié et chef d'entreprise, il y en a un, heureusement, il y en a depuis très longtemps. Est-ce que la négociation collective d'entreprise est une bonne chose? La réponse est absolument évidente. La négociation collective est une très bonne chose. Elle est fondatrice du droit du travail.
Là, vous avez peur que dans la réforme de droit du travail, il n'y ait plus du tout de négociation collective?
Non,
c'est pas le cas.
Pas du tout. Il y a beaucoup de négociations collectives actuellement en France. Il y en a au niveau des branches, il y en a au niveau des entreprises. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de négociations collectives? Oui, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y en a avant la réforme? Oui. Est-ce qu'il y en aura après la réforme? Oui. La question n'est pas exactement celle-là. La question, c'est de savoir s'il est nécessaire d'avoir aussi un socle légal protecteur identique pour tous. Et je suis de ceux qui pensent que chacune des sources du droit a sa fonction. Bien sûr, la négociation d'entreprise, c'est très important pour adapter les droits des différents salariés. Mais je pense que la loi, c'est aussi très important. Et que si on perd la loi, attention, on perd beaucoup de choses. On perd l'égalité des salariés en France. On perd une certaine lutte contre les différences qui peuvent exister d'une entreprise à l'autre et donc des inégalités très brutales. On a des pays dans lesquels toute la protection est par convention collective, et notamment par convention collective d'entreprise, et ça crée des déséquilibres très très forts. Vous êtes dans une entreprise avec une convention collective, bon là, vous pouvez avoir un statut relativement protégé, et mais juste à côté, vous avez des entreprises dans lesquelles il n'y a absolument rien. Et quand je dis absolument rien, c'est vraiment des possibilités de travailleurs pauvres très importantes. Les exemples qui nous sont souvent cités dans lesquels la convention collective d'entreprise est l'alpha et l'oméga du droit du travail, ce sont aussi des contre-exemples. Ce sont des pays dans lesquels on a un taux de travailleurs pauvres qui est vraiment très important.
Ça veut dire que vous ne faites pas confiance à ce que le contrat soit aussi une valeur, d'égalité entre le chef d'entreprise et le salarié ?
Alors, il y a plusieurs niveaux de contrat. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque niveau de contrat, il faut se méfier. C'est-à-dire que le contrat est d'autant plus juste qu'il est fait entre des partenaires égaux. Donc je pense que, par exemple, au niveau des branches, la négociation est plutôt de meilleure qualité au niveau des branches et un peu plus susceptible d'accorder un certain équilibre qu'au niveau des entreprises, et au niveau individuel, c'est encore inférieur. Quand on nous dit que c'est l'entreprise qui sera l'alpha et l'oméga, c'est aussi une interdiction pour les branches de réguler les professions avec des normes impérative. Cette interdiction pour les branches de réguler les professions avec des normes impératives qui est actuellement proposée, c'est une véritable atteinte au dialogue social et c'est un véritable problème. Je pense qu'il faut laisser les négociateurs au niveau des branches libres de conclure des conventions collectives dont ils affirment le caractère obligatoire à toutes les entreprises de la branche qu'ils visent.
Avant de retourner au standard, Gilles Berset.
Oui, on est là au cœur du sujet. Vous voyez, le sujet et la démarche actuelle, c'est effectivement de donner les clés de l'élaboration des normes aux partenaires sociaux dans les entreprises et dans les branches. Il ne s'agit pas de donner toutes les clés au niveau de l'entreprise. Il restera au niveau de la branche des domaines de décision qui seront uniquement élaborés au niveau de la branche, 6 domaines dont, puisqu'Emmanuel Dequesse a évoqué ce thème-là, les classifications professionnelles, dont les minima salariaux, dont un ensemble d'éléments comme ça. Et puis, par ailleurs, cette frontière pourra bouger dans le cadre de la discussion en cours. Je voudrais revenir sur un autre thème, ce qui est celui de la barémisation des licenciements. Là, il s'agit de dire le maximum sera le même pour tout le monde. Pour tout le monde en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de licenciement abusif. Quelque chose qui peut choquer, ça existe dans quasiment tous les pays développés, dont les pays nordiques et scandinaves, qui encore une fois sont beaucoup plus égalitaires que nous. Ce que nous proposons, Jacques Barthélémy et moi, dans nos écrits, c'est de permettre néanmoins aux juges d'échapper à ces plafonds dans des cas qu'ils considèrent exceptionnels et en motivant bien sûr dûment ces dépassements. C'est-à-dire de donner un petit peu de souplesse dans ce caractère impératif et uniforme des maxima, vous voyez. Mais en tout cas, dans beaucoup de pays, ça existe, ça se pratique. Et on considère que ces pays ne sont pas des pays esclavagistes, que je sache.
Revient au standard 01 45 24 7000 avec Dominique. Vous êtes à Toulouse. Bonsoir Dominique, on vous écoute. Dominique, visiblement, à Toulouse, n'est plus au standard. Alors, on a Eric qui nous appelle. Bonsoir Eric, on vous écoute. Ah, Eric non plus, visiblement, n'est pas au standard. Alors, Emmanuel Dequesse, vous vouliez réagir au propos de Gilles Berset sur la barémisation, effectivement, des indemnités de licenciement.
Vous savez, il y a un vieux principe, il faut savoir de quoi on parle, il y a un vieux principe qui dit que lorsque vous commettez une faute, vous indemnisez la personne qui a subi un préjudice en fonction du fait de la faute que vous avez commise. Et vous réparez son entier préjudice, c'est la réparation intégrale du préjudice. C'est exactement ce qui se
passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des excès dans effectivement les réparations des préjudices de la part des prud'hommes ?
Alors il faut bien comprendre qu'on est dans l'hypothèse où on a un licenciement illégal. Un licenciement sans justification. Il ne s'agit pas du tout de l'hypothèse à laquelle on pense habituellement, c'est-à-dire celle d'un entrepreneur qui n'a plus d'emploi, qui a des difficultés économiques, d'un entrepreneur qui est face à une incompétence professionnelle et qui licencie donc avec une justification. Il s'agit d'une hypothèse dans laquelle on n'a pas de justification. Ça peut être un licenciement qu'on dit boursier, ça peut être un licenciement de type prédateur, où on a pris une entreprise simplement pour s'emparer des brevets et on licencie tout le monde, on prend les brevets. Donc ce sont des cas qui sont relativement choquants et donc des cas dans lesquels l'employeur est considéré considéré comme fautif. Et lorsqu'il est considéré comme fautif, on dit ben, qu'il doit réparer le préjudice qu'il a causé par sa faute. Vous savez, la réparation intégrale du préjudice, c'est quelque chose qui est tout à fait banal, qui existe. Quand vous avez un accident de la circulation, on répare intégralement votre préjudice. Quand vous avez une difficulté dans la vie quotidienne, on répare intégralement votre préjudice. Et puis en droit du travail, là, on nous dit, ah non, on ne va pas réparer intégralement votre préjudice parce que c'est quand même embêtant pour la personne qui commet des fautes. Enfin, quand vous commettez des fautes, vous êtes responsable de vos fautes. Il n'y a là rien d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est de dire, non, vous allez pouvoir commettre des fautes, vous allez pouvoir violer le droit du travail et on va vous dire combien ça coûte, ce qui fait qu'en réalité, ça revient à dire aux employeurs, vous n'aurez plus à respecter l'obligation de légitimer ou de justifier vos licenciements, vous n'aurez plus à donner la raison de votre licenciement, pourvu évidemment que vous soyez suffisamment riche, que vous ayez les moyens de vous payer la somme qui vous sera demandée dans ce cas-là. Je pense que c'est une mesure relativement indécente, parce que je pense que l'idée selon laquelle, lorsque vous êtes licencié, on vous donne une justification, c'est une idée de civilisation assez basique. C'est un acte très grave, vous voyez, vous êtes licencié, c'est quand même quelque chose que vous vivez de façon un peu difficile, et que vous ayez juridiquement le droit de recevoir la raison pour laquelle vous avez été licencié, et que cette raison soit une cause réelle, sérieuse, que ce soit quelque chose qui soit susceptible de justifier la mesure, je pense que c'est vraiment... d'abord, ça n'empêche pas la création d'emplois du tout, c'est simplement presque une mesure de décence, une mesure de politesse. Et le supprimer, c'est quelque chose de très inquiétant.
Gilbert, c'est très rapidement, et on retournera au standard.
Très rapidement, encore une fois, dans beaucoup de pays qui sont civilisés, qui nous entourent, dans la grande majorité des pays qui sont civilisés, qui nous entourent, je me réfère encore une fois aux pays nordiques et scandinaves, ce genre de choses existe. Pourquoi ? Pour donner un environnement prévisible aux chefs d'entreprise. Par ailleurs, encore une fois, sur ce terrain-là...
Pour rassurer les chefs d'entreprise, en
quelque
sorte.
Pour rassurer les chefs d'entreprise
sur le risque... Ceux qui commettent des fautes.
Sur le risque, évidemment, ceux qui commettent des fautes. C'est ce qui existe dans la très grande majorité des pays...
Non, la plupart des pays...
La très grande pays des pays...
Au Royaume-Uni, réparation intégrale. Réparation intégrale aux États-Unis, réparation intégrale. En Allemagne, réparation intégrale. En Italie, réparation intégrale.
C'est terrible avec Emmanuel Decaisse, parce qu'il interrompt ce que je n'ai pas fait. Mais c'est terrible de discuter avec lui. Alors, dans la très grande majorité des pays développés, des pays de l'OCDE, c'est quelque chose qui a été dénombré par l'OCDE, c'est quelque chose qui existe. Et en particulier dans ces pays qu'on donne souvent en exemple, les pays nordiques et scandinaves. Encore une fois, sur ce plan-là, ce que nous préconisons Jacques Barthélémy et moi, c'est que néanmoins, dans certains cas exceptionnels, le juge, en motivant cette décision, puisse dépasser ses maximums.
France Inter, le téléphone sonne, Stéphane Leneuf.
Et au standard, on retrouve Faisal à Gif-sur-Yvette dans la banlieue parisienne. Faisal, vous voulez évoquer les CDI de chantier.
Oui, donc lors de la loi qui est présentée actuellement, on parle notamment du retour du CDI de chantier. Et ça, moi, je trouve un peu la dénomination un peu aberrante parce que aujourd'hui, la loi présente le CDD. On peut embaucher quelqu'un pour travailler à durée déterminée sur un projet. Par ailleurs, disons, ce qui est recherché notamment, c'est faciliter la rupture de contrat au travers du CDI et aussi, disons, je ne sais pas si cette dynamique qui va faire que les carrières vont être vraiment morcelées sur certains créneaux notamment, où il y a besoin d'une certaine continuité dans la mission et dans le travail pour créer de la compétence au niveau des salariés, ne va pas à contre-rebours par rapport aux objectifs que nous disent les entreprises d'être dans un milieu concurrentiel où il faut être toujours excellé, etc. Dans certains métiers, la maturité n'est atteinte réellement qu'au bout de 5, 8, 9, 10 ans. Et si vous voulez, si vous avez des gens qui interviennent de façon vraiment très morcelée, ils vont être obligés de travailler par morceaux, par endroit, ça va pas fragiliser encore le secteur. Sachant qu'une dynamique, moi, que j'ai observée, c'est que souvent, on va se plaindre au bout de 5 ans d'un manque de ressources qu'on a détruites les 5 ans auparavant par des réformes, soit par des restructurations, soit voilà par des licenciements. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez dans le secteur IoT, on parle, mais c'est rien que de l'informatique embarquée. Les noms ont changé de sigle, mais on reste, par exemple, sur ces compétences-là.
Merci Faisal, Gilbert Sept. Oui. On rappelle d'abord la différence entre un CDD, un CDI de chantier, comme le souhaite
c'est
les chantiers, la
c'est,
loi de travail.
Enfin, ce qui est envisagé, c'est d'élargir le CDI de chantier en l'appelant CDI de projet aux autres activités et non seulement
aux activités.
Mais le CDI
de chantier, c'est un CDD qui dure un peu plus longtemps.
C'est un CDD dont le terme n'est pas prévu par le contrat. Le terme exact n'est pas prévu par le contrat, puisque son terme, c'est la fin du chantier qui sera...
La fin du travail effectif.
Voilà, qui sera effectivement explicité dans le contrat. Néanmoins, ce qui est impératif, c'est que l'organisation des CDI de projet soit faite par accord de branche. C'est-à-dire que les partenaires sociaux, par accord majoritaire, organisent eux-mêmes le recours, enfin, le contenu de ces possibles CDI de projet. Donc c'est ce à quoi il faut effectivement être attentif pour que la chose soit à la fois protectrice, en quelque sorte, et efficace sur le plan économique, les partenaires sociaux s'engageant sur la base d'un accord majoritaire pour construire ce genre de choses.
Emmanuel Dequesse.
Bon, le CDI de chantier, c'est pas tout à fait ça, mais c'est sans importance. Ce qui est très important et ce qui a été bien souligné par l'auditeur, et je pense sur quoi il faut revenir, c'est l'idée selon laquelle la précarité n'est pas forcément productive. Dans beaucoup d'emplois, et particulièrement dans les emplois qui se développent, les emplois qui sont à la fois de connaissances, les emplois qui sont relationnels, les emplois qui ne sont pas concurrencés par la robotisation, dans ces emplois-là, l'ancienneté a une véritable valeur et aussi la stabilité a une véritable valeur, puisque la stabilité, c'est la confiance dans l'entreprise et c'est la possibilité de se mobiliser au profit d'une entreprise sans être menacé par un licenciement éclair ou par une fin de chantier ou par une fin de contrat à durée déterminée. Donc il faut faire attention, effectivement, quand on déstabilise systématiquement, on porte atteinte aussi à ce qui peut faire la valeur du droit du travail et ce qui peut faire la valeur productive du droit du travail dans une société comme la nôtre. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui a été noté par l'auditeur, c'est le contrat de chantier, qui est une espèce de mélange entre le CDI et le CDD. Mais qu'il faut bien voir que parallèlement, on a une déstabilisation des contrats durée déterminée dans la réforme. La réforme prévoit l'ouverture des cas de recours au contrat à durée déterminée et la possibilité d'utiliser beaucoup plus le contrat à durée déterminée pour peu qu'on ait une convention collective en ce sens-là. Et la réforme permet aussi de licencier plus facilement et enfin de mélanger ces deux formes de précarité avec plus de facilité. Ce qui fait que vraiment tout les statuts actuels du travail salarié sont menacés d'une plus grande précarité. C'est la première fois qu'on attaque en même temps tous les statuts par lesquels le travail salarié est exécuté.
Gino nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir, vous êtes dans la Marne, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Oui, donc moi je voulais intervenir sur le fait que être sous un statut salarié, c'est un contrat qui engage à une subordination. Une subordination et une exclusivité. Je dois mes heures à mon supérieur hiérarchique dans les conditions qu'il a choisies de me faire exercer, les tâches qu'il a choisi de me faire exercer. Et donc, cette exclusivité, cette subordination a un coût. Moi, j'ai été indépendant, j'ai été salarié. Les tarifs que je produisais en tant qu'indépendant, parce qu'on parle de flexibilité de l'emploi, mais il n'y a aucun souci pour employer des gens en prestation de service. Il y a aussi des intérims, donc c'est juste que ça coûte plus cher. Et que, en fait, flexibiliser le marché de l'emploi actuellement, c'est simplement baisser le coût de cette subordination et de cette exclusive qu'ont les salariés par rapport à leur employeur. Parce que sinon, on pourrait très bien prendre des intérims et ils coûteraient plus cher, et etc. Voilà. Donc, je trouve que dans le discours sur la flexibilité de l'emploi, on fait comme si cette exclusivité n'avait pas de coût. Et quand vous êtes, mettons, un artiste et que vous signez un contrat d'exclusivité ou que vous avez une société, vous signez un contrat d'exclusivité avec tel ou tel partenaire, eh bien, vous abondez le coût plus cher, vous vendez votre prestation plus cher parce qu'il y a l'exclusivité. C'est le cas normalement d'un travail salarié et la protection salariale devrait prendre en compte ce surcoût. Mmh. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci Gino. Gilbert Sept.
Oui, le point qui est soulevé par l'auditeur et qui est très très important, c'est le déséquilibre existant entre les protections des salariés et les protections des indépendants. Dans l'approche actuelle, il est prévu d'offrir aux indépendants certaines des protections dont bénéficient les salariés, entre autres le bénéfice de l'assurance chômage. Dans un ouvrage qu'on a publié au mois de janvier dernier, Travailler au XXIe siècle, Jacques Barthélémy et moi proposons d'aller plus loin. par la création d'un droit de l'activité professionnelle dont bénéficieraient également les indépendants et les salariés, qui seraient liés à la subordination économique et non pas à une subordination strictement juridique concrétisée par l'existence d'un contrat de travail.
Emmanuel Dockès, vous, dans votre nouveau code du travail, hein, avec ce collectif d'universitaires, vous avez prévu effectivement, vous prévoyez effectivement un nouveau statut pour ces travailleurs indépendants, les chauffeurs de taxi de Uber, ces nouveaux emplois effectivement qui sont très précaires et qui finalement n'ont pas vraiment de statut aujourd'hui.
Oui, on a une catégorie qui est un tout petit peu grise actuellement. Ce sont des gens qui sont dans des situations de faiblesse. Parfois, ce sont même des situations un peu de sous-salariat, c'est-à-dire des situations de grande faiblesse, mais qui néanmoins sont dans une certaine autonomie par rapport à leurs horaires ou par rapport à l'exécution de leurs tâches. Et ces salariés se retrouvent souvent exclus du code du travail et donc exclus des protections minimales. Et on a un risque de voir apparaître effectivement une catégorie de salariés qui serait une espèce d'infrasalariat, et c'est quelque chose de très inquiétant. Donc, plusieurs pistes sont étudiées. Une piste consiste à donner quelques bribes de droit à ces salariés un peu gris et à leur reconnaître une espèce de statut intermédiaire. Pour nous, ce n'est pas une véritable solution. Je pense qu'il faut revenir à l'idée originelle, d'ailleurs, du code du travail, d'un code du travail un peu élargi, d'un code du travail qui s'était très débattu au début du siècle, d'un code du travail qui s'applique à tous les travailleurs qui peuvent être en situation de faiblesse, donc ceux qui sont subordonnés juridiquement et ceux qui sont en situation de dépendance économique. Donc on a quelque chose qui est relativement proche de ce que vient de dire Gilles Berset. Avec
comme quoi, il y a des termes d'entente qui peuvent être possibles. Donc, Emmanuel Dockès, poursuivez après Gilles Berset.
Donc si vous voulez, l'idée serait d'intégrer ces travailleurs dans le code du travail, quitte évidemment à prévoir dans le code du travail des dispositifs qui permettent de conserver ces modes d'emploi un peu particuliers qui existent aujourd'hui. Et il ne s'agit évidemment pas de prohiber ni l'ubérisation de certains emplois, ni ces nouvelles formes d'emploi, mais plutôt de les intégrer dans le code du travail, en intégrant dans le code du travail les éventuelles souplesses dont elles ont besoin.
Gilles Berset, il est effectivement un vrai phénomène aujourd'hui, c'est la volonté d'être son propre auto-entrepreneur, d'être de la part de salariés qui veulent créer de plus en plus leur propre activité. C'est ce qu'on appelle effectivement, entre guillemets, l'ubérisation de l'économie. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de protection, d'encadrer ces professions.
Oui, vous avez raison, c'est pour ça que ce que nous proposons avec Jacques Barthélémy, donc, c'est la création d'un droit lié à l'activité professionnel et pas strictement à l'activité salariée. Ce droit couvrirait les indépendants et les salariés. Néanmoins, il ne faut pas fantasmer. Il ne faut pas fantasmer. Ce qu'on montre, Jacques Barthélémy et moi, c'est que sur les 30 dernières années, la proportion d'indépendants n'a pas augmenté dans l'emploi total. Au contraire, elle a même tendance...
Ça tient à quoi finalement ce phénomène de... Ça
au contraire, il y a une crainte, parce qu'il y a une ébullition malgré tout. Il y a des indépendants qui disparaissent, d'autres formes de travail indépendant qui apparaissent. Mais globalement, dans l'ensemble des économies des pays développés, il y a que 3 pays sur les 35 pays de l'OCDE dans lesquels ça augmente. La France, depuis la création du
donc
statut d'auto-entrepreneur, mais c'est
réussite.
Tout petit comme augmentation.
C'est plutôt lié au taux de réussite ou au taux d'échec, mais il y a une vraie volonté quelque part quand même des jeunes qui sortent d'université, qui sortent d'école ingénieure,
peut-être,
de créer leur propre entreprise.
Peut-être transitoirement pour certains d'entre eux. En tout cas, ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut souligner, c'est que dans beaucoup de cas, les modes de travail des indépendants se rapprochent des modes de travail de beaucoup de salariés avec des protections en moins. Et c'est pas simplement la protection chômage. Hein, prenons un conducteur de VTC, conducteur d'Uber en étant une caricature. Il peut avoir des horaires prescrits, l'obligation de prendre certains clients, des tarifs prescrits. Et à tout moment, il peut être déconnecté. Déconnecté, c'est l'équivalent du licenciement pour un salarié. Mais pour lui, il n'y a aucun recours. Alors qu'il y en a, évidemment, pour le salarié, ça s'appelle les prud'hommes. Et là, il y a quelque chose qui est, évidemment, sur le fond, inacceptable en termes d'égalité de traitement, voyez, entre deux types de travaux qui sont très proches l'un de l'autre.
Oui, sur ce point, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut effectivement penser à un élargissement du salariat pour couvrir ces situations qui sont tout à fait similaires.
On retourne au standard. Raphaël, vous nous appelez, vous êtes dans l'Aveyron. Bonsoir, Raphaël.
Oui, bonsoir. Merci pour vos émissions, d'abord.
Merci.
Je voulais témoigner et poser une question. J'ai été licencié il y a bientôt 2 ans pour inaptitude suite à un burn-out et harcèlement. J'ai donc attaqué mon ancienne entreprise et je suis pas encore passé devant le tribunal des prud'hommes depuis 2 ans que la procédure est entamée. L'entreprise aujourd'hui revient vers moi et me fait une proposition de montant qui a été divisé par 2 par rapport à ce que je pouvais escompter au niveau des jurisprudences en cours par rapport à ma situation. Mon avocate aujourd'hui me conseille d'accepter cette proposition. Donc ma question est, dois-je accepter cette proposition et aller au bout, sachant que les jurisprudences sont toujours d'actualité et les nouvelles lois toujours pas votées.
Merci.
Et que les tribunaux donc appliquent les nouveaux montants de la future loi.
Merci Raphaël Gilbert-Sette.
Alors, monsieur, moi, j'ai aucun conseil à vous donner sur le plan personnel. Hein. Je connais pas votre situation et c'est pas moi ma profession de donner des conseils dans des situations spécifiques. Ce qu'on remarque tous, c'est que le traitement des contentieux du travail, la justice du travail, fonctionne mal en France. Elle fonctionne mal avec des délais très longs, avec un échec total de la phase de conciliation. 5% environ des cas sont résolus en conciliation. Avec le fait que les décisions de prud'homme sont souvent des décisions boiteuses, il faut le dire. Et pourquoi boiteuses? Bah, les juges de prud'homme sont pas des professionnels, ils sont en nombre pair. Et puis on
ça
est
veut dire
avec
quoi, il faudrait professionnaliser définitivement la justice prud'homale.
Nous ce qu'on préconise c'est l'échevinage systématique. On est avec le Mexique parmi les pays de l'OCDE, puis le Mexique n'est quand même pas un benchmark en termes de fonctionnement du marché du travail. Les seuls pays dans lesquels il n'y a pas de présence de juges professionnels, c'est quelque chose qui est pas acceptable. Pourquoi partout ailleurs il y a des juges professionnels? Et ça aboutit à des décisions qui sont souvent des compromis. Ces compromis sont souvent boiteux. Plus de deux tiers des cas, des décisions de première instance vont en appel. Et dans plus de deux tiers des cas d'appel, il y a une invalidation totale ou partielle de la décision de première instance. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et les délais s'ajoutent aux délais. Vous en pâtissez énormément. Donc nous faisons des propositions avec Jacques Barthélémy, d'abord de créer des étapes de médiation, de renforcer le rôle de la conciliation, de la rendre plus efficace, et puis de généraliser l'échevinage, évidemment, pour aboutir à une plus grande professionnalisation des décisions de prud'homme.
Emmanuel Decaisse.
Sur l'amélioration des conseils de prud'homme, est-ce qu'il faut les améliorer? Oui, évidemment, on a des dysfonctionnements qui sont effectivement assez graves. Sur votre question précise, évidemment, là, je vais répondre comme Monsieur Gilbert-Sette, puisque je n'ai pas votre dossier entre les mains, il me serait bien difficile de vous donner un conseil, si ce n'est que je peux quand même vous dire que les probabilités que le changement de loi ait un effet très important sur votre situation personnelle sont relativement faibles, puisque a priori on devrait pas avoir de changement en ce qui concerne les indemnités dues en cas de harcèlement tout de même, enfin j'ose l'espérer. Sur l'évolution de la justice du travail, là c'est évidemment un débat très important qui n'est pas actuellement à l'ordre du jour. Pour notre part, dans notre code du travail, on préconise et on défend la mise en place d'une véritable juridiction sociale, une juridiction qui comprenne tous les litiges sociaux et qui simplifie grandement cet accès. Et plutôt que de préconiser l'échevinage, on préconise de mettre des moyens, notamment de conseils juridiques, à la disposition des conseillers prud'homaux qui, actuellement, leur font grandement défaut, puisqu'à part s'appuyer un peu sur les greffes, ils n'ont pas de véritables conseillers juridiques à leur disposition, alors qu'on a de l'aide qui est fournie auprès des juges, y compris auprès des juges de cour d'appel. On leur paye des aides et on devrait en payer aussi aux conseillers prud'homaux, et actuellement c'est pas le cas, ce qui est regrettable.
Alors retour sur une question très pratique sur internet de Rose dans le 19e arrondissement de Paris. En ce qui concerne le plafonnement des indemnisations, est-ce que ce serait pour les employés, les ouvriers, les cadres sup, est-ce que finalement tout le monde serait soumis à la même réglementation dans le projet de loi actuel? Gilbert-Sette.
C'est comme ça que je comprends en tout cas l'orientation de le contenu de la loi d'habilitation. Maintenant, après, les choses se préciseront davantage dans le contexte des ordonnances qui seront rédigées, qui ne sont pas encore évidemment disponibles. C'est comme ça que je le comprends et effectivement.
Emmanuel Decaisse.
J'ai du mal à comprendre votre question exactement.
La question de l'auditeur, c'était pas ma question. En fait, est-ce que les plafonnements d'indemnisation allaient concerner tout le monde finalement? Est-ce que la réglementation allait être commune?
Non, alors les plafonnements d'indemnisation, parce qu'il y a aussi cette question des heures supplémentaires, c'est tout à fait différent. Les plafonnements d'indemnisation ne concernent que le licenciement. On prévoit, et plus précisément encore, ça ne concerne que le licenciement dépourvu de justification dont le montant sera plafonné et prévisible. En revanche, sur les autres aspects du droit du travail, il n'est pas prévu de fixer une espèce de barème automatique, tout le monde le même salaire, tout le monde le même pourcentage d'heures supplémentaires. Au contraire, il est prévu de, mais ça sera dans la négociation qui va suivre ensuite sur les heures supplémentaires, mais c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ça. D'ailleurs, il n'y a pas de règle réglementation des heures supplémentaires qui va être modifiée par les ordonnances de ce point de vue-là. Donc cette histoire de plafonnement et d'automatisation est quand même limitée à une situation particulière.
Retour au standard, Dominique, vous nous appelez de Toulouse. Bonsoir Dominique, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
On vous a retrouvé.
Écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'était que, à mon sens, le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui présenté relève d'un certain malentendu, d'un large malentendu. Hein, pour l'opinion publique a entendu parler de modernisation, de simplification, de mesures de rénovation sociale. Effectivement, si on s'arrête à ces mots, on ne peut être que d'accord. Par contre, effectivement, quand on lit le projet de loi d'habilitation, on s'aperçoit que ces mots sont largement un trompe-l'œil. Bon, ça a été évoqué à plusieurs reprises durant l'émission. Hein. Je donnerai juste un ou deux exemples. Dans le projet de loi, il est écrit « reconnaître une place centrale à la négociation collective d'entreprise ». Mais en fait, et M. Dockès l'a indiqué tout à l'heure, ce que l'on cherche à faire par les ordonnances, c'est pas développer la négociation collective, qui existe déjà, bien entendu. Hein. Qu'on se rappelle la troisième semaine de congés payés chez Renault, en 55, c'était déjà de la négociation d'entreprise. Mais ce qui est cherché aujourd'hui, c'est fixer des règles, c'est que ces accords puissent fixer des règles moins protectrices des salariés que celles des conventions collectives de branche ou des lois et décrets dans une entreprise, par exemple, sous la pression d'un chantage à l'emploi. Donc c'est autre chose que reconnaître une place centrale à la négociation collective d'entreprise, puisque une telle écriture des règles, entreprise par entreprise, risque de favoriser, bien sûr, le moins-disant social.
Merci Dominique. Gilbert Sette, rapidement, pour répondre à Dominique.
Oui, dans la logique du processus en cours, hein, qu'on avait largement préconisé, Jacques Barthélémy et moi, il s'agit de donner aux partenaires sociaux la possibilité, par un accord collectif global, de voir si une solution qu'ils ont choisie est préférable à une solution antérieure. Dans la solution qu'ils ont choisie, il pourrait y avoir des reculs, des pertes, mais il y aura des avancées qui, globalement, permettront au point d'arrivée à ce qu'ils auront décidé d'être jugés par eux plus intéressants, plus performants, plus protecteurs que ce qui existait précédemment. Le point essentiel que vous suggérez, c'est que, bien évidemment, dans la négociation, les deux parties doivent avoir un certain équilibre et c'est quelque chose qui doit être développé, qui doit être travaillé pour permettre à cette négociation d'être réellement équilibrée.
Merci à tous les deux, Gilbert Sette et Emmanuel Dockès, pour avoir participé à cette émission. On reviendra sans doute au cours de l'été, voire à la rentrée, sur cette réforme du droit du travail.